Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Lecture en liberté, Denis Flageul.
Bonsoir. Nous nous retrouvons pour la suite du roman de Jean-Claude Izot, Les Marins perdus. Abdulaziz sortit du bijou hôtel plus triste qu'il n'y était entré, plus désemparé encore. La certitude le gagnait que d'une manière ou d'une autre, il avait épuisé tout le crédit de sa vie. À partir d'aujourd'hui, il n'était plus qu'un perdant. Cette fille, Stella, elle avait dit qu'elle s'appelait Stella, l'avait pigée. « C'est pas à moi que tu pensais, hein ?» elle lui demanda après, en fumant une cigarette. Elle était allongée sur le dos, son avant-bras gauche replié sous sa tête, sans pudeur. « Non, » admit-il. « T'as une femme quelque part, hein, c'est ça ?»« Ouais, » murmura-t-il. Mais ce n'était pas à ces faits qu'il avait pensé. C'était à lui, à sa vie en déglingue. Il avait toujours manqué de courage, pas dans sa vie professionnelle, ça non, il se considérait comme un bon capitaine. Aucun des équipages qu'il avait eus sous ses ordres ne pouvait affirmer le contraire. Il s'appliquait à commander dans les règles et il n'y dérogeait jamais, même pas pour lui. C'est après que tout se compliquait. Quand il descendait de bateau, dans le quotidien, les lois de la mer étaient autres que les lois de la terre et il se perdait entre les deux. Ce n'était pas ça, il le savait, c'était plus grave. Les règles étaient les mêmes sur terre comme sur mer. Pour tous les hommes, quels qu'ils soient, tout dépendait du regard que l'on portait sur les autres. Les règles trouvaient leur sens après. Les lois, les codes, les conventions, lui, il n'accordait aux règles que leur sens initial, une manière de régir les hommes. Il n'avait jamais envisagé les hommes par rapport aux règles. L'homme n'entrait pas dans la loi, il devait s'y plier. Et dans la hiérarchie sociale, il valait mieux ordonner que plier. Son père l'avait éduqué ainsi, dans cette rigidité qui évalue les sentiments, au profit des bonnes manières, de la politesse obséquieuse et de cette vulgarité à considérer les autres comme des obligés, toujours. Une autre manière de voir le monde, plus réaliste, plus efficace. Constantin Takis était de la même trempe que lui. Ils avaient négocié l'évacuation de sa famille à Beyrouth sans faire entrer un seul instant dans leurs discussions le drame humain, le drame d'une nation, le drame des communautés de cette nation. Ce n'était qu'une affaire qu'ils traitaient entre gens de bien. Et le cargo de Constantin Takis n'embarqua que les quatre personnes prévues dans leur accord, son père et sa mère, et une tante et un oncle, la famille qui lui restait. Mais voilà, son père, dans sa joie de pouvoir fuir, arriva sur le quai, accompagné de la famille Rafik, de petits paysans voisins de leur propriété. C'était grâce à Rafik que ses parents avaient pu fuir le chouf. Le capitaine du cargo, un certain Calvin, qu'Abdoul ne connaissait pas, refusa de les embarquer. Comme dans toutes les bonnes transactions, Abdulaziz avait négocié au juste prix. Son père, qui l'appela quelques semaines après, lui apprit que la famille Rafik avait péri sous un bombardement dans une cave de Beyrouth-Est. Il lui reprocha sévèrement la mort de ces gens. « Sans eux, nous ne serions pas ici en vie à Limassol. » Il employa le terme de bassesse à l'égard d'Abdoul. Quel manque d'humanité ! Ce n'est pas ainsi que je t'ai élevé, mon fils. Son père ne lui adressa plus la parole et sur son lit de mort, lui refusa même son pardon. Abdul en avait énormément souffert. Il avait sauvé sa famille, sauvé sa mère, son père, c'était la guerre. Fallait-il aussi qu'il sauve l'humanité ? Pourquoi son père ne voulait-il pas comprendre cela, qu'il avait accompli l'essentiel ? Bien sûr, avait dit Séfé, mais tu n'avais pas pensé aux autres. Séfé l'avait aidé dans cette période. Son regard sur la vie était tout autre que le sien. Elle prenait les événements tels qu'ils arrivaient avec fatalisme. En fin de compte, ne demeurait que le bonheur d'être dans l'immédiateté. Une vertu africaine, avait-il souvent songé. Il avait découvert que par certains aspects, Diamantis fonctionnait de la même manière. Séfé l'avait aidé 10 ans plus tôt dans l'affaire du Sinus. Il était vrai que le marché qu'on lui avait mis entre les mains après le naufrage organisé par Tex Oil l'avait profondément écœuré, comme il l'avait raconté l'autre nuit à Diamantis. Mais là encore, il avait manqué de courage. Il avait choisi la règle plutôt que l'exception, le silence plutôt que la vérité. Il se souvenait de la lettre que lui avaient adressée les parents de Lucio, ce jeune mousse qui avait péri dans le naufrage. Il l'implorait de témoigner contre le capitaine, contre la compagnie. Ils affirmaient que des marins seraient prêts à confirmer son témoignage, mais il ne pouvait rien intenter sans lui. Il était second sur le Sinus, un officier, on l'écouterait, et la plainte serait prise au sérieux. Il avait demandé son avis à Séfé. « Quoi que tu fasses, lui avait-elle expliqué, je serai toujours à ton côté. Je t'aime, Abdul, et l'amour ne se négocie pas, mais je ne peux pas décider à ta place. Chacun doit accomplir ce qu'il doit faire, c'est ça que je crois. Fais ce que tu crois devoir faire. » Il n'avait pas répondu aux parents de Lucio. Séfé parlait comme son oncle, le sorcier Diouf. Et Abdul ne savait pas entendre ce que le cœur de l'homme disait. Il n'entendait qu'un seul raisonnement, celui qui lui permettait de s'élever, de ne pas être un obligé. Plus haut il serait et mieux il pourrait empêcher les injustices. Capitaine, c'était mieux que second. Avoir de l'argent, mieux que d'en emprunter. Non, personne depuis ne pouvait lui reprocher d'avoir failli à ses choix. Il savait tenir tête aux armateurs sur les salaires des marins, la sécurité, la santé et le confort à bord. Il n'avait jamais harcelé son équipage. Il n'avait jamais abandonné un navire. Même dans les pires moments, il était en règle avec lui-même. Mensonge, pensait-il. Mensonge, pensait-il depuis quelques jours. Il était en règle avec l'ordre de la société, pas avec lui. C'est pour cela qu'il n'arrivait pas à se confier à Diamantis. Il ne lui avait fait confidence que du meilleur de lui. Même quand il s'était laissé aller à lui avouer que ses faits le quittaient, que sa vie s'écroulait. L'émotion qu'il lui avait donné à voir n'était que l'émotion de ses mensonges, son apitoiement sur lui-même, rien d'autre. Il aurait fallu aussi qu'il s'explique sur cette galère de l'Aldébaran, parce qu'Abdul Aziz n'avait pas songé à se dédire envers Constantin Takis, même après le drame de la famille graphique. Une parole était une parole, et elle devait être respectée. Il ne l'ignorait pas. Acceptant le commandement de l'Aldébaran, il endossait le rôle de leurre. Pour le commerce international, pour bon nombre d'hommes d'équipage, que Takis fût un escroc, ne le regardait en rien, du moins dans cette affaire. Il aurait respecté cet accord avec n'importe qui, en conscience, c'était la règle. S'il y dérogeait, ne serait-ce qu'une fois sa vie, il en était alors persuadé, partirait à volo. Il s'était dit ça, et c'était le contraire qui se produisait. Il avait pris sa décision sans en dire un mot à ses faits. Il l'avait mise devant le fait accompli, son départ. Parce qu'une nouvelle fois, il avait manqué de courage. Envers Takis. Envers elle aussi, surtout. S'il avait pu répondre à sa question, s'il avait pu affronter la remise en cause de la vie qu'il lui faisait vivre, peut-être aurait-il pu refuser d'honorer la demande crapuleuse de Takis. Ses faits avaient décidé de le quitter à ce moment-là précisément. Aujourd'hui, demander conseil à Diamantis, si cela était encore possible, l'appeler à l'aide, cela revenait à se foutre à poil devant lui, à ne plus transiger, à ne plus jongler comme il le faisait à tout moment avec les valeurs de la vie, toutes ces choses qui semblaient être au-dessus de ses forces, car c'était ça le fond du problème. Il en avait maintenant une conscience aiguë. La vie des hommes ne se négociait pas, l'amitié ne se négociait pas, l'amour non plus. C'est fait, songea-t-il. Elle avait toujours été de son côté, pas lui. Il aimait qu'elle l'aime, mais lui, c'est fait, l'aimait-il pour elle-même. Il n'avait pas toujours été de son côté à elle, du côté de son amour. Cette fille à ses côtés, Stella, en témoignait cruellement. « Tu penses à elle, c'est ça ?» lui demanda Stella en éteignant sa cigarette. « Ouais. » Il regardait Stella comme on regarde un objet. Un bel objet. Son corps moite brillait. Elle n'était pas encore usée par les hommes, l'alcool et la drogue. Elle lui avait avoué avoir 21 ans. Elle était originaire d'un petit village dont il avait déjà oublié le nom, près de Iași, en Roumanie. Elle avait toujours vécu à la campagne. Son corps était épanoui avec les saisons, dans l'effort, les tâches rudes. Il était puissant et musclé, un peu comme celui de ses fées. Des corps qui ne plieront pas facilement devant l'ingratitude des jours, devant les mauvais coups du sort. Son choix s'était porté sur Stella à cause de son physique. Il n'aimait pas les femmes fragiles. Elles étaient trop passives. Il ne concevait de faire l'amour que dans l'affrontement physique. Stella ne l'avait pas déçu. Elle avait de la force et suffisamment de haine pour lui donner le plaisir qu'il espérait. « Moi, j'ai plus rien à penser », elle dit.
Des histoires que tous restaient figés à écouter jusqu'au soir. Oh mais elle ne disait rien. Oh mais merci ou à demain. De sa bouche grande comme un ravin, on se jetterait pour y mourir une bouche. Vous prétendez certains, on avait même vu un sourire. Mais de cet homme poussant la porte et qui commandait d'une voix forte, j'ai soif de la vie. Mon apporte. Et il partait dans de grands éclats de rire qui pour la serveuse étaient comme des navires transportant les rêves qu'elle n'avait jamais eus vers un soleil qu'elle n'aurait jamais cru. Et il est resté là jusqu'au soir à raconter de drôles d'histoires, des pays inconnus et nouveaux, juste à trois stations de métro, un grand boulevard, bazar de l'espoir, où les amours se trament et se désirent sans qu'il n'y ait même plus rien à dire. Et pour sûr qu'un jour on y défilera, hurlait-il en cédant des bras, et il recommandait d'une voix forte, j'ai soif de la vie. En oublier de laver ses verres, abandonner le bar à ses clients et avec lui s'enfuir éperdument. Mais quand c'est à elle qu'il a parlé, c'était pour dire ma petite dame, combien que ça fait. Alors elle a dit c'est pour la maison, mais dans le bistrot ça fait sensation. Alors il est parti comme il était venu, arraché par la rue. qu'à lui. Sous le regard des autres, et depuis elle ne pense qu'à lui. Et dans son cœur le manque se vautre. Et chaque jour elle entend tout bas ce petit refrain qui cogne à sa porte. J'ai soif de la vie comme on apporte. Que dans un grand tourbillon elle me transporte. 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 Que dans un grand tourbillon elle me transporte.
Lecture en liberté, Denis Flagel.
Jean-Claude Izot, Les Marins perdus. Devant la porte de sa cabine, la première chose qu'il vit, ce furent les cafards. Trois énormes cafards noirs. Monstrueux. L'estomac de Diamantis se noua. Les cafards, c'est ce qu'il détestait le plus au monde. Ça y est, il se dit, les voilà. L'Aldébaran devait en être infesté et on allait en voir courir partout. Ces saloperies savaient toujours être là où on les attendait le moins, sous votre assiette, dans un sac de riz ou entre vos draps écœurants. Il fila un coup de pied rageur dans leur direction, sans chercher à les écraser. Les écraser, ça, il ne le pouvait pas. Surtout cela. Le crissement de leur carapace sous son pied lui filait des frissons et l'envie de vomir. Il ouvrit la porte précautionneusement, comme si des milliers de cafards pouvaient lui sauter à la gueule ou tomber en pluie sur sa tête et ses épaules. Il en eut la chair de poule, rien que d'y songer. Mais il n'en vit pas. Il secoua le drap de sa couchette, souleva le matelas, l'oreiller, puis il se déshabilla et s'allongea. Il était épuisé. Peut-être que si Mariette n'était pas repartie immédiatement, il aurait profité de sa voiture pour aller au rendez-vous que lui avait fixé Amina. Mais ce n'était pas plus mal comme ça. Il avait besoin de repos. Ses muscles meurtris diffusaient dans son corps une douleur lancinante. Il ne sentait plus son corps que par cette douleur et il était comme sonné par la fatigue et le doliprane. Dans sa tête, toute pensée semblait avoir été chassée. Il était curieusement vide. Pourtant, il ne ressentait pas le besoin de dormir. Ses yeux restaient ouverts, fixes. C'était une sensation qu'il n'avait connue qu'une fois dans sa vie, un jour qu'il s'était battu à poings nus contre un Irlandais dans un bar de Hanovre. Cet enfoiré dissertait sur l'état de la marine dans le monde en s'empiffrant de Guinness. Et s'il fallait établir quelques distinctions, gueulait-il, je dirais que les Haïtiens ont les plus mauvais bateaux et les Grecs les pires marins. Applaudissements, rires et hurrahs avaient fusé. Diamantis, bourré comme ce n'était plus permis, s'était levé chancelant, sa bière à la main. Il s'était approché de l'Irlandais et avait tapé sur son épaule. L'autre avait levé vers lui ses yeux globuleux, jaunâtres. Diamantis avait approché son visage de l'Irlandais. « Je suis grec et je t'emmerde, même mieux !» Et il avait vidé le contenu de sa pinte sur le crâne du type. Bon, il n'avait eu le dessus que durant quelques minutes, les deux premières. Les autres, il avait fait qu'encaisser. Puis il avait pris un pain sur la tempe gauche et il était parti s'affaler contre le comptoir. Il était resté là, sans plus aucune envie de bouger, les yeux ouverts. Le Bosco et le radio l'avaient ramené à bord. Au petit jour, les yeux fixes, rivés au plafond, il comptait encore les coups. Maintenant, il se mélangeait les pinceaux entre le nombre de coups de matraque reçus cette nuit et les coups de poing encaissés il y a 20 ans. Il repensa au canon froid du flingue dans sa bouche, aux menaces qu'on avait proférées contre lui. Celle de cette nuit lui paraissait plus grave que celle d'il y a 20 ans. Malgré la menace du flingue. Plus grave, parce que plus récente. Approcher Amina restait tout aussi dangereux. Pourquoi ? Elle seule pouvait peut-être lui expliquer. L'idée de se faire plomber était loin de le réjouir, mais il avait décidé d'aller jusqu'au bout. Il s'en était fait une raison. Il fallait juste qu'il fasse ça, demander pardon. C'était puéril, peut-être. Mais après, seulement après, il pourrait envisager sa vie autrement. Sans être obligé de courir sans fin les mers du monde, ce qu'il fuyait depuis, parce qu'il ne faisait que fuir, c'est ce qui naissait une fois qu'on avait fini. L'amour. L'amour et tout ce qui en découlait. L'avenir à construire, la fidélité de l'un à l'autre, la confiance. Comment pouvait-on bâtir un avenir de confiance si on ne prenait pas la peine de demander pardon un jour pour toutes les conneries passées ? Pardon à ceux que l'on a blessés, pardon à ceux qu'on s'engage à aimer. Avec Mélina, tout avait foiré à cause de ça. Il n'avait pas demandé pardon. Et elle ne le lui avait donc pas accordé. Et leur amour avait pris l'eau. Il était persuadé plus que jamais que Mélina et lui auraient pu vivre heureux. La mer n'était pas un obstacle à leur amour. Le manque de confiance, oui, et cette fuite permanente qu'il appelait son métier ou sa vocation les soirs de dispute. Il avait toujours des arguments à ses infidélités. Et Ulysse, toujours à la bouche, pour avoir le dernier mot, comme son père. Combien de fois les avait-il entendus s'engueuler, sa mère et lui, et son père répondre que la polygynie appartenait à la Méditerranée et de claquer la porte pour partir en bordée une nuit ou une semaine. Car l'homme méditerranéen, avait lu Diamantis plus tard, croit aussi que sans même naviguer, les hommes peuvent se comporter comme des navigateurs. Mélina ne voulait pas du rôle de Pénélope. Si, elle voulait bien, mais aussi être Circé et Calypso. Et sans doute était-elle par là plus grecque même que Diamantis. Ce n'était pas le mariage, sa finalité, mais le plaisir d'aimer. Loin de tout le tralala romantique anglo-saxon, l'amour dont on meurt, l'amour au nom duquel on assassine, elle aimait parce que c'était la vie. Amina avait précédé Mélina dans l'amour, mais Mélina, qu'il connaissait depuis longtemps, existait déjà dans Amina. Elles n'étaient que les deux faces d'un seul amour qu'il avait brisé. Après 20 ans d'errance, Diamantis cherchait à revenir à son port d'attache. Il avait envie d'aimer. Le pardon d'Amina lui était indispensable. Il se tourna en économisant ses gestes. Du regard, il scruta les coins de la cabine qu'il pouvait voir. Il n'aperçut pas de cafard. Il ferma les yeux. Dans son mot, Amina ne faisait pas allusion au message qu'il lui avait laissé hier. Qui était cette fille qui avait déposé l'enveloppe pour lui ? Comment Nedim pouvait-il la connaître ? Et d'où ? Où est-ce qu'il avait traîné ce con-là ? Le perroquet bleu, le Habana, merde ! Amina travaillait au Habana. Elle était une de ces deux filles qui avaient arnaqué Nedim. Amina n'était pas pute, mais entraîneuse. Amina. Nedim n'avait pas parlé d'Amina. C'était quoi déjà leur prénom ? Lala. Lala, c'était celle qui le menait par le bout du nez. Et l'autre, une vieille, il avait dit. Gabi. Gabi ? Gabi. Est-ce qu'Amina était au Habana quand il était venu négocier le sac de Nedim ? Pourquoi n'était-elle pas venue vers lui ? Peut-être ne pouvait-elle pas, mais qui avait suggéré à Doug de négocier son passeport contre les affaires de Nedim ? Et pourquoi ? Lala ? Pour quelle raison Lala aurait-elle fait ça ? Lala avait-elle cette autorité ? Non, trop jeune. Amina ? Gabi ? Gabi. C'était peut-être elle la patronne. Ou Amina ? Une vieille, c'était quoi pour Nedim ? 50 ans ? 40 ? 40 ? Gabi ? Est-ce que Gabi était Amina ? C'était ça, non ? Oui, c'était ça. Il entendit du bruit dans la coursive. Il regarda sa montre. 5h10. Merde, il s'était endormi. Il se redressa et il faillit hurler. Il resta assis sur sa couchette. Abdulaziz apparut. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Il dit en voyant le visage meurtri de Diamantis. Mauvaise rencontre, plaisanta Diamantis. Abdul éclata de rire. Nedim avait parié que tu t'envoyais en l'air. Nedim ramène toute la vie à ça. Ouais, ce serait plus simple si c'était ça. Ça va ? ça pourrait être pire. Et toi, ça pourrait être pire aussi. Diamantis réussit à se lever. J'ai besoin de boire un truc chaud. Du thé ? Ouais, du thé. Je vais en faire. Abdul rompit le silence. Diamantis s'était reperdu dans ses pensées. Le thé lui faisait du bien, son estomac se calmait. Il devait aller là-bas maintenant, retrouver Amina et Nedim et Lala. Combien de temps il lui fallait pour se rendre à ce bar ? En bus, au moins une heure. Il pouvait prendre un taxi. Il ne voyait pas où elle était exactement, cette plage du prophète, sur la corniche. Mais c'était long, la corniche. Il faut qu'on parle, toi et moi. Diamantis leva les yeux vers Abdul. Il avait l'air malade. Ses yeux noirs brillaient curieusement. Il tourne pas rond, constata Diamantis. Qu'on parle de quoi ? Diamantis, commença-t-il. Attends, Abdul, je ne sais pas de quoi tu veux parler, mais moi, j'ai pas trop le temps, là. J'ai rendez-vous. Et c'est à plus d'une heure d'ici. Le visage d'Abdul se referma. Je croyais qu'on pouvait parler, toi et moi. Diamantis s'énervait. Maintenant, il voulait y aller le plus rapidement possible, voir Amina, tirer tout ça au clair, tirer même un trait sur tout ça, et finir avec le passé, ce passé qui s'insinuait dans tous ces instants. Il voulait vivre de l'autre côté, changer d'horizon. Abdul, de quoi tu veux qu'on parle, merde ? Abdul était paniqué. Il avait préparé une longue confession. Tout dans sa tête était en ordre. Et voilà que Diamantis ne voulait pas l'écouter. Mais qu'est-ce qu'il avait encore besoin d'aller courir en ville ? Qu'est-ce qu'il pouvait avoir de si important à faire ? De plus important que de l'écouter, lui, qui était au bout du rouleau. Comment ne pouvait-il voir, comprendre ça, qu'il était au bout du rouleau ? Je, balbutia-t-il, les yeux baissés sur son bol. Il releva la tête. « Va te faire foutre, Diamantis, » il pensa. « Bah, ça presse pas, » dit-il simplement. « Quand tu reviendras, mais juste une question, Diamantis. Après, je te laisse filer. Pourquoi t'es resté ? Pourquoi tu t'es pas cassé avec les autres ? Pourquoi ? Ouais, si je le savais. Tu veux dire que t'en sais rien ? J'avais plus de clopes ce matin-là, je suis parti en acheter. » Quand je suis revenu, tout était réglé, je crois, ouais. Il faisait bon, j'ai traîné dans les rues, et voilà, j'ai complètement oublié. Te fous pas de moi. Et toi, tu fais chier, il te faut toujours une raison, j'en ai pas, je suis resté parce que je suis resté. Point, c'est clair ? Ou tu préfères que je te dise qu'être là ou ailleurs, j'en avais rien à foutre ce jour-là ? Plus aujourd'hui ? Aujourd'hui, pas plus qu'hier. Avec quand même une préférence pour aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui j'en ai ma claque de ce putain de rafio plein de cafards et des cafards. Ben oui, mon vieux, des cafards, ça grouille partout. Il y en a dans ma cabine et autant dans la tête. Et je me dis qu'il est temps qu'on se barre, toi et moi. Abdul se leva. En fait, c'est ça, Diamantis, tu veux te casser. Quand j'aurai réglé un ou deux trucs, ouais, c'est ce que je ferai. Diamantis se leva à son tour, lentement. Ne pas réveiller la douleur. Le doliprane qu'il venait d'avaler semblait déjà faire son effet. Voilà donc pour ce soir, la suite de ce roman de Jean-Claude Izzo, Les Marins Perdus, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.